Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Récidive et réinsertion. Non sans exagération et avec son verbe habituel, Bernard Tapie disait en 1998 que « La prison est l'école de la délinquance, du crime et de la récidive. Pour celui qui est allé en prison, l'emploi, le logement, la formation deviennent interdits. La prison ne prépare aucune réinsertion. Elle veille méticuleusement à l'interdire. Il n'y a pas de système répressif collectif parfait, mais je sais qu'on a choisi le plus mauvais, que la prison ne répond à aucun de ses objectifs affichés et que, dans sa pratique quotidienne, elle est une véritable honte pour le pays des droits de l'homme. » S'il n'est évidemment pas question de faire ici le procès de l'administration pénitentiaire et de la justice pénale, il est évident que nous pouvons d'emblée affirmer qu'emprisonner sans autres efforts ne permet ni de lutter contre la récidive, ni ne permet la réinsertion. Deux notions en apparence distinctes et pourtant intimement liées au point d'être indissociables. Heureusement, de nombreux leviers existent et sont mis en œuvre avec plus ou moins de succès, mais toujours avec l'idée d'une plus grande efficacité de la réponse judiciaire et pénitentiaire aux maux de la société. Les SPIP, Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation, jouent un rôle central dans cet effort. Pour approfondir les enjeux de la prévention de la récidive et de la réinsertion sociale des personnes confiées à l'administration pénitentiaire par l'autorité judiciaire, nous recevons Charlotte Lepaysan, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Charlotte Lepaysan, bonjour. Bonjour et merci de participer une nouvelle fois au podcast de l'ISP, Charlotte Lepaysan.
Bonjour Jacob Bérébi et un grand merci à vous pour l'accueil.
Charlotte Lepaysan, pour comprendre ces enjeux, ce dont on parlait, et les difficultés de la prévention et de la récidive et de la réinsertion, il faut d'abord s'interroger sur le sens de la peine et sur l'évolution de la pensée et des mœurs en la matière, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Alors, l'administration pénitentiaire était connue et reconnue pendant longtemps comme la gardienne des personnes détenues. Les surveillants pénitentiaires d'aujourd'hui étaient appelés les gardiens de prison, et ce jusqu'en 1919. On a, ces dernières années, assisté à une réelle évolution des objectifs assignés aux peines. Nous sommes passés d'un esprit de vengeance à une véritable recherche de réinsertion, de réadaptation et de réparation. En effet, donc la vengeance privée primée, il s'agissait d'appliquer la loi du talion exprimée dans la Torah, notamment au travers de cette formule. « Mais si malheur arrive, tu paieras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » On parle aussi de vendetta. On cherchait par le droit de la peine le fait de racheter sa faute auprès de la société tout entière, de subir une peine purement punitive, une peine destinée à mettre au ban, suffisamment dissuasive pour contenir les autres et suffisamment importante pour pallier à toute récidive. La neutralisation complète du délinquant était souhaitée, c'était une fonction éliminatrice de la peine que l'on relève. On pense bien évidemment à la peine de mort, abolie depuis peu, grâce au fervent défenseur de la suppression de cette peine capitale, M. Badinter, qui nous a quittés il y a peu. L'idée était de supprimer définitivement les délinquants, ceux qui veulent du mal à la société. Et là encore, plutôt que de s'occuper de les réinsérer, de les réinscrire dans la société, on les élimine. Les peines perpétuelles vont d'ailleurs dans le même sens. Et on assiste aujourd'hui à un véritable glissement vers un autre courant, mais tout de même, on retrouve encore aujourd'hui une survivance de cette mise au ban de la société souhaitée avec la peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté incompressible. On pense à Salah Abdeslam, condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité incompressible le 29 juin 2022 par la Cour d'assises spéciale de Paris pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015. L'idée de réinsertion n'est pas souhaitée, elle n'est pas même envisagée. C'est un écart de la société ad vitam aeternam.
Alors, on le voit, Charlotte Lepaysan, cela signifie que depuis fort longtemps, et même avant l'Antiquité donc, jusqu'à encore aujourd'hui, on a cette idée de suppression de la société. Alors, vous avez utilisé des termes, mise au ban, neutraliser, éliminer, éloigner, encore perpétuité. Autant de termes donc qui nous éloignent de la réinsertion. Alors, comment est-ce intervenu dans nos sociétés finalement ?
Alors, petit à petit, les conceptions évoluent au fil des années, des siècles. et de la place de la religion dans nos sociétés. L'idée d'expiation qui consiste à réparer un péché par la pénitence apparaît. La peine sera alors le moyen d'atteindre l'âme du délinquant. L'idée est de le faire souffrir et ainsi qu'il puisse expier sa faute. C'est la même idée lorsque l'on parle d'amendement. Sur l'aspect moral de la question, l'idée est de permettre de faire regretter son acte au délinquant, de s'amender. C'est une conception criminologique de la défense sociale nouvelle. C'est un premier pas vers l'idée de réadaptation sociale telle que décrite par M. Ancel, puis de réinsertion du condamné.
Alors, c'est dire qu'on voit un changement de paradigme du sens de la peine. Qu'est-ce que la réadaptation ?
Avec la réadaptation, on permet aux condamnés de se questionner. On s'attache à prévenir la délinquance et la récidive au moyen de peines pour corriger le délinquant, en quelque sorte. Il s'agit d'un souhait de changement moral, de pensée, mais également un changement social, un changement plus global qui permettra à la personne de se réinsérer en société, de modifier définitivement son comportement et ses habitudes de vie.
Alors, sauf erreur, aujourd'hui, on parle encore plus de réparation, restauration. On se rappelle le film « Je verrai toujours vos visages » sur la justice restaurative et le podcast auquel on s'était livré ensemble à propos de ce film et de la justice restaurative, justement.
Et oui, en effet, il y a encore un pas de fait dernièrement, une évolution du paradigme, une évolution de notre façon de penser. Les victimes étaient en fait complètement aux abonnés absents jusqu'à présent. On se concentrait sur les auteurs, les délinquants, leur élimination dans un premier temps, puis leur réadaptation, leur réinsertion, comme on a pu le dire, dans la société. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des victimes ? Seul le ministère public représentait les intérêts de la société, parler en leur nom et formuler des réquisitions en lien avec la souffrance ressentie, mais surtout les risques pour la société tout entière, victimes donc indirectement. Il devenait insupportable de les oublier, de faire fi de leur souffrance et de leur état d'esprit, de leur réinsertion à elles depuis l'infraction qui leur a été complètement imposée. L'idée avec cette notion, c'est finalement de dépasser le cadre purement juridique de la question, purement punitif plutôt, et mieux prendre en compte les victimes dans le processus pénal, favoriser dans le même temps les médiations entre les délinquants, la société et la victime, afin de lui permettre de réparer son acte. Il y a donc effectivement un podcast dédié que l'on a pu enregistrer ensemble, comme vous l'avez dit, mais finalement, c'est l'idée de la justice restaurative inscrite dans la loi du 15 août 2014, dont on parle ici, qui peut être entendue au sens large, contenant les fameuses rencontres auteurs-victimes notamment. Et le film « Je verrai toujours vos visages » a su en parler de manière très juste et très documentée. Mais pas seulement. Au-delà de la constitution de partie civile qui permet à une personne victime de prendre part au procès pénal et de formuler une demande d'indemnisation de toutes sortes, les évolutions législatives ont permis d'apporter une écoute, une information, une aide en termes d'accueil et de prise en charge, un véritable accompagnement pendant tout le temps de la procédure. Les associations d'aide aux victimes ont alors toute leur place et ont pris place même au cours des années 80. La loi Perben 1 du 9 septembre 2002 a permis d'accéder pour les victimes à un avocat commis d'office pour les représenter dès le dépôt de plainte. Et l'AGI, l'aide juridictionnelle, est de droit pour toutes les victimes d'infractions les plus graves, sans condition de ressources. La loi Perben 2 du 9 mars 2004, quant à elle, prévoit la prise en compte des intérêts des victimes dans les procédures d'aménagement de peine. On perçoit une réelle volonté de prendre en charge la vie de la victime tout le long de la procédure. Ces évolutions en disent long sur l'évolution du droit pénal et du sens de la peine, mais Robert Badinter l'a tout de même rappelé, la justice pénale n'a pas pour mission d'être une thérapie de la souffrance des victimes, elle a une fonction répressive, dissuasive et expressive, car elle exprime les valeurs de la société.
La réadaptation, la réparation par la prise en compte des victimes, la réinsertion, qui permet d'aboutir à ces finalités ou en tout cas à ces objectifs ?
Eh bien, c'est le SPIP, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, qui est particulièrement récent dans sa création, telle qu'on le connaît, mais assez ancien dans sa conception première. Tout est finalement dit dans l'acronyme. C'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est l'idée de prévenir la récidive et contribuer à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire. Les SPIP, tels qu'on les connaît, existent depuis 1999.
Alors, Charlotte Lepézan, quels sont les grands textes qui régissent ces services, ces SPIP?
Eh bien, c'est la loi pénitentiaire, la loi dite pénitentiaire du 24 novembre 2009, et qui pose le cadre général de la mission de service public pénitentiaire. On pourra donc effectivement lire dans son article, dans son titre préliminaire, le régime d'exécution de la peine de privation. Le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion et la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions. L'article 2, quant à lui, énonce qu'il contribue, en tout cas le service pénitentiaire d'insertion et de probation, contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique, dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes condamnées.
Alors, ils existent depuis 1999. Ils sont régis notamment donc par les textes que vous venez de citer, qui sont de 2009. On voit une évolution constante des SPIP. On professionnalise les acteurs des SPIP. On cherche à les rendre, en tout cas à rendre leur action plus efficace, plus efficiente.
Oui, tout à fait. Alors, le SPIP a une grande mission, une mission principale qui est la prévention de la récidive. Et qu'est-ce qu'on y met derrière? Alors, donc pour cela, il est chargé de réaliser une évaluation de la personne et d'assurer un accompagnement adapté afin de trouver des solutions aux problématiques identifiées chez la personne suivie. Il assure également le contrôle et le respect des obligations prononcées, c'est l'aspect probatoire de la question, donc des obligations qui sont prononcées par l'autorité judiciaire. Et il aide à la décision judiciaire par la transmission de rapports réguliers au magistrat mandant, qui est le juge d'application des peines. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation accompagnent les personnes détenues dans le cadre d'un parcours d'exécution des peines. Ils aident à la décision judiciaire, je vous le disais, et à l'individualisation des peines et de l'exécution des peines. Ils proposent des mesures d'aménagement de peine au juge en fonction de la situation du condamné. Ils aident à la préparation à la sortie de prison. Il s'agit de faciliter l'accès des personnes incarcérées au dispositif d'insertion de droit commun. Et pour ce faire, les personnels pénitentiaires d'insertion et de probation développent et coordonnent un réseau de partenaires institutionnels et associatifs. Ils luttent également contre la désocialisation des personnes détenues. Et à ce stade, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une professionnalisation, vous l'avez dit, du métier, grâce à un référentiel des pratiques opérationnelles tiré des règles européennes de probation, les REP, et des règles pénitentiaires européennes, les RPE, des recommandations complémentaires visant à mieux prendre en charge le public et à prévenir la récidive de manière efficace.
Alors Charles Lepézan, on est sur un point important, je pense, du sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette professionnalisation des acteurs de terrain? Une harmonisation, si l'on comprend bien, des actions menées, c'est cela?
Oui, tout à fait. Et en fait, on va mettre un intérêt particulier à réaliser une évaluation. L'évaluation va trouver une place primordiale. Et cette évaluation se veut collaborative, c'est-à-dire en lien avec des personnes, les personnes concernées, les personnes placées sous main de justice. Il est effectivement important d'aller chercher du côté des facteurs de risque, statiques et dynamiques, on va y revenir, corrélé à un risque de récidive. Et avec cette évaluation, on rend la personne placée sous main de justice complètement actrice de sa mesure. On l'accompagne dans la prise en charge, mais on veut qu'elle soit complètement active. On veut qu'elle soit complètement volontaire. Alors, je vous parlais des facteurs de risque. Vous avez effectivement les facteurs de risque statiques qui correspondent à la situation pénale de la personne, qui est de ce fait intouchable, dans le sens où aucune intervention n'est possible pour venir apporter un quelconque changement. On pense aux antécédents judiciaires, on pense aux incarcérations précédentes, au faible intervalle entre la dernière libération et la nouvelle incarcération, aux antécédents de manquement à une peine de milieu ouvert, et il y en a d'autres. Cela permet en fait une lecture dynamique du casier judiciaire. Pour résumer, il s'agit ici d'extraire le nombre de condamnations. Pour quel type de fait? À quel âge cela a commencé? Est-ce qu'il y a eu une interruption à un moment donné? Et puis, les condamnations avec détention ou les condamnations à des peines de milieu ouvert et le déroulé de celles-ci. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que la personne a bien respecté le cadre? Ça, ce sont effectivement les facteurs de risque statiques. Et puis, on trouve les facteurs de risque dynamiques. Et ceci désigne les sphères de vie dans lesquelles une intervention, notre intervention en tant que conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, est possible. Ce sera l'objet du plan d'accompagnement et de la prise en charge du service pénitentiaire d'insertion et de probation, à savoir venir apporter les changements sur les thématiques évaluées comme problématiques au regard du risque de récidive. Et voici les items concernés, on va aller chercher les attitudes et les croyances, ce sont donc les représentations, les pensées antisociales par exemple. On ira chercher l'environnement relationnel et social, on pense aux fréquentations problématiques, les fréquentations qui poussent un petit peu au passage à l'acte. On pense aussi au profil antisocial, c'est-à-dire la façon dont une personne se comporte, dont elle parle, l'agressivité potentielle. On pense aux problèmes familiaux et conjugaux, aux problèmes d'insertion professionnelle, l'absence de loisirs et d'activités prosociales, et la toxicomanie et addiction. Ce ne sont pas les seuls facteurs qu'on ira chercher, on ira aussi chercher les facteurs de protection qui mettront en balance un petit peu l'évaluation. Ce sont tous les éléments positifs qu'il convient de renforcer ou de maintenir et qui éloignent d'un potentiel risque. Cela peut être une insertion professionnelle réussie et qui procure satisfaction, des objectifs de vie clairement définis, un soutien extérieur comme le respect de convocations auprès d'un organisme de santé, on pense aux addictions avec effectivement des structures d'accompagnement qui permettent d'accompagner les personnes placées sous main de justice sur les consommations problématiques, ou une envie tout simplement de s'en sortir, avec un investissement particulier dans les entretiens SPIP, et puis effectivement aussi un événement positif récent, par exemple le fait de devenir parent, un enfant qui arrive dans le couple et qui détermine la personne à en finir avec la délinquance et à en finir avec les infractions qui ont posé problème.
Alors ça paraît effectivement très complet, c'est très intéressant. Charlotte Lepaysan, une fois que l'évaluation est posée, que l'on connaît le risque de dangerosité, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il se passe en entretien entre le conseiller pénitentiaire et une personne condamnée dans cet objectif de prévention de la récidive et de la réinsertion?
Effectivement, alors je vous parlais de l'évaluation qui a trouvé une place primordiale grâce à ce référentiel des pratiques opérationnelles. Mais une fois que l'évaluation est posée, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, finalement, on ira chercher du côté du plan d'accompagnement décidé par l'évaluation dressée. Effectivement, une fois que l'évaluation est dressée, on va dresser des axes de travail en lien avec les besoins criminogènes de la personne placée sous main de justice. Et là, par exemple, on va aider les personnes placées sous main de justice à comprendre leur peine, à comprendre pourquoi cette peine a été prononcée plutôt qu'une autre. Pourquoi aujourd'hui on l'a condamnée pour ce type de fait. Il s'agit ici d'impulser une dynamique de réinsertion, notamment par la mise en place de programmes de prévention de la récidive, par exemple. En milieu ouvert, à l'extérieur donc, hors les murs de la détention, les conseillers s'assurent du respect des obligations imposées aux personnes condamnées à des peines restrictives ou privatives de liberté, comme la semi-liberté, le travail d'intérêt général, la libération conditionnelle et bien d'autres. Et dans le cadre des politiques publiques, les conseillers favorisent l'accès des personnes placées sous main de justice aux dispositifs d'insertion sociale et professionnelle. Pour mener à bien ces différentes missions, ils travaillent avec d'autres personnels pénitentiaires et s'appuie sur un réseau de partenaires institutionnels et associatifs. Et en milieu ouvert, mais comme en milieu fermé, finalement, il y a une multitude d'outils qui peuvent être utilisés en entretien afin de prévenir la récidive, et donc de travailler sur la diminution du risque de récidive et de diminuer le risque de passage à l'acte. Cela peut tourner autour de la prise en compte des victimes, par exemple, c'est-à-dire travailler sur l'empathie, l'aider à se placer à la place d'eux, tenter qu'ils puissent se rendre compte de l'impact de leurs faits et gestes sur les autres, les victimes directes, les victimes indirectes. Bref, une prise de recul nécessaire, une étude des conséquences de l'infraction commise. Il est possible également de réaliser un accompagnement qui pourrait être basé sur les schémas de pensée, par le biais d'une restructuration cognitive, du moins c'est comme ça que l'on l'appelle, cette intervention. Il s'agit d'identifier les pensées automatiques négatives, problématiques, qui éloignent de la réalité, par exemple, et entraînant certaines émotions et certains comportements, en l'occurrence, menant au passage à l'acte délinquant. Mais ce n'est pas tout. Il est possible de travailler sur la chaîne délictuelle, c'est-à-dire découper le temps qui s'est déroulé juste avant l'infraction, pouvoir identifier donc les événements déterminants, le contexte de l'infraction, afin ensuite de travailler sur la construction d'une autre vie, d'autres conditions, et ainsi éviter que les personnes placées sous main de justice ne soient remises dans le même contexte de passage à l'acte.
Alors à nouveau, ça apparaît très complet, ça apparaît très ambitieux aussi, mais il existe encore d'autres leviers, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Il est possible de travailler les techniques d'évitement. Une fois qu'on a identifié le contexte problématique, je vais prendre l'exemple d'une addiction, une fois que cela est identifié, il faut aller chercher du côté des techniques d'évitement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour ne plus se retrouver dans le même contexte, pour éviter qu'un nouveau passage à l'acte arrive. Il est possible également de travailler sur le développement des capacités et compétences cognitives et comportementales. Alors en fait, là, il s'agit de travailler sur la communication, la gestion de la colère et la maîtrise de soi. Mais alors tout cela ne se fait pas seul, hein, évidemment. Le CEPIP n'a pas de super pouvoir. Les partenaires basés sur une prise en charge psychologique sont très aidants et précieux dans ce cas de figure. Nous pouvons également travailler sur le développement des opportunités sociales face à une personne placée sous main de justice, relativement isolée, et n'ayant pas les codes sociaux, par exemple, en orientant là aussi vers un partenaire social basé sur la culture, par exemple, ou sur le sport. Et puis, l'environnement familial ou amical a également toute sa place. Cela permet d'une part de réaliser un contrôle social, c'est-à-dire que le regard des autres permet bien souvent de moduler nos faits et gestes, mais encore faut-il que les fréquentations soient prosociales et non criminogènes. Et cela permet aussi d'éviter l'oisiveté, la solitude, qui sont facteurs de risque de récidive. Le collectif a effectivement aussi toute sa place, puisque là, nous n'avons parlé que de l'individuel.
Alors justement, à propos des actions collectives, on avait déjà évoqué la question ensemble, encore une fois, à l'occasion du podcast sur la justice restaurative. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres actions qui existent et nous expliquer en quoi elles permettent de pallier le risque de récidive ?
Alors effectivement, on a développé le collectif parce que parfois, la prise en charge individuelle s'avère un petit peu insuffisante. Et puis surtout, il se passe d'autres choses dans le collectif. Les prises en charge collectives existent et permettent en fait une émulsion collective, une dynamique collective autour d'une thématique donnée. Cela permet finalement de discuter entre pairs, de pouvoir échanger dans le cadre de groupes de parole, par exemple, et cela existe, et cela permet d'évoquer, à des fins qui peuvent être thérapeutiques, le pourquoi du comment certains en sont arrivés là. Cela travaille en parallèle le respect de la parole de l'autre, matérialisé par le bâton de parole, on l'a vu dans le film « Je verrai toujours vos visages », où finalement on met en place des règles de prise de parole afin de respecter l'autre et lui laisser son espace de parole, le respecter et lui laisser sa place, son moment, avant d'interagir.
Alors Charles Lepaison, en préparant ce podcast, j'ai découvert une notion grâce à vous. J'aimerais qu'on l'évoque ici, j'aimerais qu'on évoque les programmes de prévention de la récidive, ces programmes que l'on appelle les PPR, c'est extrêmement intéressant.
Oui, effectivement, les PPR. Alors en fait, on utilise le prisme de l'infraction ou même l'évaluation de la personne directement pour proposer ce fameux programme, le programme de prévention de la récidive et donc agir sur la récidive directement. Et il y en a une multitude. On trouve les programmes de prévention de la récidive axés sur les auteurs de violences conjugales, par exemple, ou les PPR sur la thématique de l'argent. Comment gérer, comment dépenser, sans faire appel à des moyens illégaux. Autant de PPR que de problématiques, c'est un moyen finalement de réunir des personnes placées sous main de justice ayant un point commun, celui de l'infraction ou alors de leur personnalité, et donc de les faire échanger ensemble sur cela, de pouvoir élaborer ensemble des techniques d'évitement, donc en collectif, tout en rencontrant parfois des professionnels de terrain qui aideront à la compréhension générale. C'est dans ce cadre que des associations peuvent être sollicitées pour parler de ce qu'ils connaissent. Alors, pour exemple, sur le PPR violence conjugale, il est important de parler, par exemple, des types de violences qui existent, des impacts, des conséquences directes et indirectes. Et un des moyens d'en parler et de pouvoir évoquer la place de la victime, c'est finalement de travailler sur le parcours d'une victime. Du dépôt de plainte jusqu'à la condamnation et à l'exécution des peines, tout en passant par la phase de constatation des blessures et des conséquences de l'infraction sur la victime directement. C'est finalement travailler sur se mettre à la place d'eux et travailler surtout l'empathie. Il existe un autre type de PPR, ce que sont les PPR à destination des auteurs d'infractions à caractère sexuel, avec des interventions, différentes, mais tout aussi liées. Et certains PPR sont dédiés à la prise en charge des auteurs de radicalisation violente également. Divers stages existent en parallèle, par ailleurs, comme le stage de citoyenneté, qui permet de sensibiliser les participants, auteurs d'infractions, aux valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine. Et on a un exemple, c'est un stage qui a été construit, un stage de citoyenneté au mémorial de Caen. Et ce stage est proposé, il s'agit là de toucher les personnes condamnées pour des faits en lien avec la discrimination raciale. On a une visite du mémorial qui est prévue et des débats sont organisés avec le directeur directement du musée. Cela permet finalement d'éveiller les sensibilités et de parler de l'histoire et de ses conséquences sur l'humanité. En tout cas, autant de groupes qui permettent finalement une émulsion collective, une prise de conscience à plusieurs dans le but de prévenir la récidive.
Oui, je trouve ça particulièrement intéressant. Sans naïveté aucune, je pense que la prise de conscience, on la voit véritable au travers de ces quelques exemples. Charlotte Lepezan, si vous en êtes d'accord, j'aimerais qu'on place le focus maintenant sur les auteurs de violences conjugales. D'ailleurs, que nous placions ce focus est une chose, mais on le sait, cela a été et c'est un axe de politique publique depuis le 3 septembre 2019. Hein, c'est la date à laquelle, sous l'égide du Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, le gouvernement avait lancé le Grenelle des violences conjugales. Qu'est-ce qui est mis en place plus spécifiquement pour prévenir la récidive et permettre une réinsertion dans ce cadre des violences conjugales?
Alors, la prise en charge se veut orientée quant à l'infraction qui est commise. En effet, on parle d'auteur de violences conjugales, mais sur le principe, c'est pas si différent. Alors, d'abord, d'un point de vue individuel, on parlait des facteurs statiques et des facteurs dynamiques. On ira chercher les mêmes choses. Ce sera juste un petit peu plus spécifique s'agissant des auteurs de violences conjugales. Effectivement, on ira chercher plus spécifiquement les antécédents de violences conjugales et de violences familiales, les antécédents de violences physiques, graves ou sexuelles, les antécédents de violences extra-familiales ou alors de menaces de mort, les révocations précédentes de mesures de non-respect d'une interdiction de contact, par exemple, de contact en lien avec, avec la victime de l'infraction qui peut être une ex-compagne. Ou alors on pourra aller regarder du côté du statut de victime ou de témoin de violences intrafamiliales dans l'enfance ou dans l'adolescence, avec un focus particulier également sur l'escalade récente de la fréquence ou de la sévérité des agressions. Ça, c'est ce qui va nous occuper d'un point de vue facteur statique pour dresser notre évaluation. Et s'agissant des facteurs dynamiques propres à un auteur de violences conjugales, on ira chercher les attitudes qui approuvent ou qui excusent les violences conjugales, la négation ou la minimisation des faits, la jalousie extrême, les problèmes relationnels dans le couple, les tentatives de suicide, les troubles de la personnalité avec colère ou impulsivité, les troubles mentaux, les problèmes d'emploi récents, les problèmes récents de toxicomanie. Bref, vous voyez que ce sont finalement les mêmes facteurs statiques et dynamiques, mais on ira chercher dans le détail plus spécifiquement du côté de facteurs statiques et dynamiques qui peuvent concerner directement les auteurs de violences conjugale. On a une trame, pour résumer, une trame générale, mais plus spécifiquement, on peut aller creuser, on peut aller chercher sur la thématique des auteurs de violences conjugales. On ira chercher également une grossesse, enfin en tout cas, c'est un facteur de risque, une grossesse en cours ou une séparation récente ou en cours. Et puis, on prend en charge la victime, enfin, on la prend en charge, c'est pas le terme, mais en tout cas, on prend en compte la victime, on prend en compte sa crainte pour sa sécurité ou celle de son enfant. C'est très important dans la prise en charge.
Alors là, on parle donc de prise en charge de l'auteur, on parle d'évaluation, et concernant l'accompagnement en tant que tel, qu'en est-il ?
Alors, s'agissant de l'accompagnement en tant que tel, il s'agira de renforcer la motivation au changement et de développer le capital humain. On va en entretien SPIP travailler sur les représentations, les valeurs, les schémas de pensée, en utilisant notamment les méthodes cognitivo-comportementales. On va analyser la chaîne du comportement avec une identification des erreurs de pensée, les pensées automatiques, les distorsions cognitives, on appelle cela comme ça. En tout cas, on va travailler tout cela et travailler aussi sur la gestion des émotions. Ici, nous pourrons évoquer en entretien l'égalité femmes-hommes, évidemment, les représentations sur la répartition dans le couple, la place de la femme qui est offerte dans le couple, la parole acceptée de celle-ci, notamment, le statut du mari ou, de façon générale et plus large, du partenaire de vie, si on se veut plus complet. L'idée, c'est finalement d'aller chercher les représentations problématiques et permettre un changement, une restructuration cognitive. Ça, c'était d'un point de vue individuel. Et d'un point de vue collectif, si on prend l'exemple du SPIP de Paris, du service au sein duquel je travaille, plusieurs programmes existent. Il y a un stage de responsabilisation des auteurs de violences conjugales qui est dispensé par l'association Dans le genre égal. Il s'agit de 4 stages par an sur 4 jours au total, avec divers objectifs, envisager les différentes violences, faire émerger une prise de conscience, les conséquences des actes et développer des techniques d'évitement, notamment. Il existe également des groupes de parole à visée thérapeutique, et puis on trouve un programme de prévention de la récidive, les fameux PPR dont on a parlé, à destination des auteurs de violences conjugales, notamment en milieu fermé qui a été construit l'année passée.
Alors la transition est toute faite, je vous en remercie. L'idée centrale est de parler d'une obligation d'activité, l'idée est de mobiliser les personnes détenues. Cela permettrait, grâce à ce temps occupé, à cet occupationnel, cette occupation avec des activités proactives, prosociales, de pallier aussi le risque de récidive.
Effectivement, c'est fait pour et c'est en vue d'assurer la réinsertion des personnes détenues. C'est la loi pénitentiaire de 2009, toujours, qui soumet les personnes détenues à une obligation d'activité. L'idée, c'est de les rendre acteurs de leur mesure et de leur incarcération, de les rendre en fait actifs, de leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne connaissaient peut-être pas avant, de pouvoir les faire agir, de les rendre actifs pour l'avenir, de construire un projet différent de ce qu'ils ont pu connaître jusqu'à maintenant, de les sortir de leurs habitudes qui peuvent être qualifiées de criminogènes pour certains, c'est-à-dire des habitudes qui ont pu poser difficultés par le passé. Ainsi, toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins une des activités qui lui sont proposées par le chef d'établissement et le directeur du SPIP. Et ces activités, elles sont énumérées par le code de procédure pénale. On y trouve donc le travail, la formation professionnelle, l'insertion par l'activité économique, l'enseignement, les activités éducatives, les activités culturelles aussi, socioculturelles, sportives et physiques.
Alors, c'est là que l'on met en exergue l'évidence d'un lien intime entre lutte contre la récidive et la réinsertion. L'idée de cette obligation d'activité est évidemment pertinente et séduisante. Mais sauf erreur de ma part, Charles Lepesan, je parle sous votre contrôle, il s'agit davantage d'une obligation de principe, laquelle est difficile à mettre en œuvre dans certains établissements, notamment en raison de la surpopulation carcérale que l'on constate et dont nous avons aussi déjà parlé dans un podcast.
Tout à fait. Alors, en effet, c'est une obligation de principe, vous l'avez bien dit. Il y a des difficultés de mise en œuvre dans certains établissements, et notamment les maisons d'arrêt, en raison de la surpopulation. Vous l'avez très bien souligné, et on a effectivement pu en débattre lors d'un autre podcast. Là, il y a une file d'attente, en fait, une liste d'attente pour accéder à un travail, à un enseignement ou à une formation professionnelle. C'est très fréquent en maison d'arrêt et c'est très malheureux. Et pour illustrer ceci, le nombre d'heures d'activités proposées dans les établissements pénitentiaires s'est élevé en moyenne à 3h46 par personne détenue et par jour. C'est un chiffre de 2017, mais qui est toujours actif aujourd'hui, toujours d'actualité. Mais ce serait l'idéal que ce soit le cas aussi pour les maisons d'arrêt et c'est dommage que ça ne soit pas le cas à cause de la surpopulation carcérale, pas le cas encore. En tout cas, le travail et la formation professionnelle en détention sont des leviers déterminants d'insertion professionnelle, et c'est évident. En effet, la grande majorité des personnes incarcérées n'a que très peu d'expérience professionnelle et un faible niveau de qualification. On relève 53% de personnes détenues qui n'ont aucun diplôme. Le travail et la formation leur permettent d'acquérir des compétences et des savoir-être qu'ils peuvent valoriser sur le marché du travail à leur sortie de détention. Et ces mesures contribuent à faciliter la réinsertion et donc prévenir toujours la récidive.
Alors, en la matière, on découvre, en tout cas moi je l'ai découvert à l'occasion de la préparation de ce podcast, qu'il y a une agence spécialisée, l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. Quel est son rôle, Charlotte Lebaison ?
Tout à fait, l'ATIJIP, effectivement, qui est en lien avec les directions interrégionales des services pénitentiaires et les conseils régionaux. Elle pilote ces actions. En fait, c'est une agence qui est créée en décembre 2018. Et donc, l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice est chargée de développer le travail, de développer la formation et l'insertion professionnelle au sens large. Et pour réaliser sa grande mission, l'ATIJIP a créé un réseau. On trouve 72 référents territoriaux du travail d'intérêt général, 20 référents interrégionaux de l'insertion professionnelle pour le travail et la formation en prison, et on trouve 600 ateliers de production en prison, dont 48 gérés directement par l'ATIJIP. On voit le grand intérêt qui est porté au travail et à l'insertion professionnelle au sens large. Et les personnes incarcérées peuvent aussi suivre une formation donc professionnelle. Et les formations proposées concernent de nombreux secteurs. On trouve le bâtiment, le numérique, l'hôtellerie et la restauration. Elles sont finalement ces formations adaptées au marché du travail pour faciliter le retour à l'emploi. Elles sont mises en place par des conseils régionaux en lien avec les services du ministère de la Justice. Et en 2021, 11 447 personnes incarcérées étaient inscrites en formation, soit 8,4% d'entre elles. Et l'ATIJIP est là pour développer l'accès à cette formation professionnelle. On veut promouvoir la formation professionnelle, on veut former à tout prix pour que la sortie se fasse dans les meilleures conditions. Par ailleurs, on permet un accès à l'éducation. C'est un droit en prison finalement. C'est aussi un enjeu majeur puisque 7,6% des personnes détenues étaient en situation d'illettrisme en 2017, mais là encore c'est un chiffre que l'on considère à jour. Et 11,4% avaient des difficultés de lecture. Et donc l'enseignement dispensé en détention s'adresse en priorité aux mineurs incarcérés et aux jeunes adultes. Il est aussi proposé de toute façon aux détenus, à toute personne détenue qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, et aux personnes détenues qui n'ont pas de qualification ou de diplôme. Ça permet finalement de reprendre la scolarité, de faire finalement une remise à niveau, et ça concourt à la réinsertion au sens large. Et cet enseignement, il est assuré par l'Éducation nationale. Et on trouve effectivement également un accès aux activités culturelles, socioculturelles et sportives. Comme je vous le disais, cela fait partie de l'obligation d'activité en détention.
Alors, je trouve que la question de l'accès à l'éducation des personnes détenues est une question particulièrement intéressante. Mais si vous le voulez bien, c'est un autre point sur lequel j'aimerais revenir avec vous, Charlotte Lepaison. Vous parliez du travail en prison. Plus précisément, est-ce que vous pouvez nous dire comment cela se déroule ? Quel est le statut des personnes détenues quand elles travaillent pour l'administration pénitentiaire ?
Alors, les personnes incarcérées bénéficient d'un statut de détenu travailleur et donc d'une protection sociale qui est attachée à ce statut de détenu travailleur. Et on estime à 31% le pourcentage de personnes incarcérées travaillant. Et travailler en prison peut prendre différentes formes. Il y a effectivement le travail pour le compte de la paix, mais pas que. La paix, c'est l'administration pénitentiaire. Au total, on trouve en fait le service général. On trouve également les ateliers de l'ATIGIP, le travail en concession, les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises adaptées. Alors pour y revenir, le service général, ça désigne finalement l'ensemble des emplois de maintenance, de restauration, d'organisation et d'entretien de la prison qui sont proposés aux détenus. Et là, on compte actuellement environ 6 800 personnes détenues travaillant dans ce cadre. Ils effectuent entre 3 et 7 heures de travail par jour. Ils vont par exemple entretenir les locaux. Ils peuvent servir la fameuse gamelle aux personnes détenues. Et je vous le disais, on trouve également le travail en concession. Là, on va avoir des personnes privées qui vont prendre attache avec la détention pour proposer des activités en concession, pour proposer des activités en atelier. Ça va être par exemple des ateliers d'empaquetage, par exemple, des ateliers de couture pour créer les fameux tote bags qui avaient été proposés dans le cadre d'une foire parisienne. Voilà, ce qu'on va permettre, c'est aider une entreprise privée et de proposer un emploi à des personnes détenues pour sortir de tout ce qu'ils ont pu connaître par le passé et de les occuper, de leur délivrer une rémunération et d'aider les entreprises privées.
Alors, Charlotte Lebezan, je vais me faire suspicieux. Je vais relayer ici l'opinion publique, en tout cas une partie d'entre elles, qui doute de la pertinence de ces éléments mis en place et de ces mécanismes. Comment pouvons-nous être certains que tout cela fonctionne, Charlotte Lebezan?
Alors certains, je ne sais pas, je ne m'engagerai pas là-dessus. J'espère qu'effectivement, on permet d'accéder à. Mais en tout cas, on a vu se réunir plusieurs professionnels de terrain, des experts en quelque sorte, dans le cadre d'une conférence de consensus sur la prévention de la récidive en février 2013. Et cette conférence de consensus a largement contribué à faire connaître en France les différentes études et recherches conduites, en France et ailleurs d'ailleurs, notamment en Outre-Atlantique, sur la probation et la prise en charge des auteurs d'infractions. Et en effet, Christiane Taubira, pardon, à l'époque, la garde des Sceaux de l'époque, avait effectivement installé en septembre 2012 un comité présidé par une magistrate, Nicole Mestracci, qui à son tour a choisi un jury indépendant de 20 personnes. Et l'idée, c'était quoi? C'était de se réunir, de réfléchir et de rédiger des recommandations autour de la prévention de la récidive. Et à cette occasion, le jury a considéré qu'il dispose, et je cite, « d'éléments fiables pour remettre en cause l'efficacité de la peine de prison en termes de prévention de la récidive. La prison, la forme la plus évidente et la mieux admise des peines, n'offre à la société qu'une sécurité provisoire et ne doit plus être qu'une peine parmi d'autres. » Et à cette occasion, le jury a proposé de supprimer les peines automatiques, comme les peines planchers, qui contribuent à remplir les prisons, ce qui a été suivi par la suite. Il propose surtout de créer une peine de probation, indépendante et sans lien ni référence avec l'emprisonnement, pour permettre la réinsertion de la personne condamnée et la protection de la société ainsi que celle des victimes. Il s'agissait là de percevoir les bienfaits des peines de probation en lieu et place des peines de prison simples, problématiques à plusieurs titres, notamment en raison de l'isolement, de la désocialisation occasionnée et de la surpopulation relevée. Les peines de probation, c'est-à-dire de milieu ouvert, permettent un travail de rééducation, de réinsertion en milieu libre, c'est-à-dire en conditions réelles plutôt qu'en milieu fermé, ce qui n'est pas représentatif de ce que toute personne connaîtra à sa sortie. On a en fait mis en exergue ce qui fonctionne moins, ce qui ne fonctionne pas, pour développer une peine qui aurait des bienfaits et qui fonctionnerait. On met tout en œuvre pour que ça fonctionne.
Oui, je pense que c'est un élément important. Il ne faut pas laisser dire que les mécanismes, les leviers mis en place sont improvisés. Il y a eu un vrai travail d'expertise. On est notamment allé chercher ailleurs ce qui fonctionnait. C'est d'ailleurs probant, on le voit. Est-ce que vous pouvez nous en dire justement plus sur ces inspirations internationales de notre modèle actuel?
Oui, je vais parler des États-Unis, puisque les États-Unis ont joué un rôle majeur avec, dans les années 70, une politique centrée sur la neutralisation, une recrudescence du prononcé d'incarcération. Et pour pallier à cela, des programmes de réhabilitation ont vu le jour, finalement, afin de baser l'accompagnement sur des méthodes efficaces que l'on pourrait évaluer au titre de la prévention de la récidive. Et finalement, ce qui est important de dire sur ce point, c'est que si l'action des services pénitentiaires d'insertion et de probation est basée sur la prévention de la récidive en tant que telle, la réinsertion et l'absence totale de réitération de l'infraction, on va quand même plutôt s'attacher à aller regarder, s'il y a une récidive, j'entends, la qualité de la réitération. C'est-à-dire à aller voir l'importance de la nouvelle infraction commise, le temps entre la dernière infraction et la nouvelle commise, l'intensité, etc., etc. Et on va aller donc chercher ce qu'on appelle le phénomène de désistance. C'est ce phénomène-là qui est intéressant, qui a effectivement intéressé nombre de recherches internationales. Et qu'est-ce que c'est que la désistance? C'est le processus par lequel l'auteur de l'infraction met un terme à ses activités délinquantes et mène sa vie en respectant la loi. Et on parle de processus dans le temps. La réitération, finalement, quand on l'entend, fait partie du processus à part entière, c'est-à-dire que l'on va aller chercher le pourquoi du comment on réitère, et comme je vous le disais, l'intensité de la récidive, afin d'évaluer la sortie de la délinquance. La réitération en tant que telle, on ne remet pas à mal tout le travail qui a été fait, on ne part pas de zéro, on s'en servira en entretien pour aller chercher ce qui s'est passé, et donc, comme je vous le disais, le pourquoi du comment on réitère.
Alors, à nouveau, c'est très intéressant, Charlotte Lebesan, mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret pour qu'on se figure exactement de ces mécanismes?
Tout à fait. On peut prendre l'exemple d'infractions en lien avec une consommation d'alcool. La réitération est possible. Elle est même parfois très probable, tant l'addiction est difficile à traiter, on le sait, à canaliser, à contrôler. Mais une nouvelle infraction commise dans un tout autre contexte que la précédente, avec une alcoolisation qui se veut ponctuel et non d'habitude, comme c'était le cas par le passé, ne met pas à mal tout le travail réalisé en amont, en fait. Les enseignements pris restent. Les efforts doivent évidemment être renouvelés. Il ne s'agit surtout pas de repartir à zéro, mais plutôt de comprendre que la rechute peut faire partie intégrante du processus, du fameux processus de la désistance, et que la totale abstinence relève davantage de la motivation à arrêter, de la rupture par rapport aux anciennes habitudes de vie et de la maturité qui s'acquiert au fil des années. Au final, c'est un objectif à terme, l'abstinence, mais on sait que c'est un processus long.
Alors, encore une fois, c'est vraiment très intéressant, cette sociologie para-juridique du détenu et au titre de la lutte contre la récidive et la réinsertion et en faveur de la réinsertion. Malheureusement, Charlotte Lebesan, je me rends compte que ce podcast est déjà fort avancé. Si vous le voulez bien, on va conclure. Charlotte Lebesan, est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot?
Alors oui, un dernier mot, voire même un dernier paragraphe, on va dire. Si on résume, la prévention de la récidive, elle n'est pas linéaire finalement. L'activité des SPIP sert à distancier des habitudes criminogènes. Mais la rechute n'est malheureusement parfois pas inévitable. Tout est fait pour que cela n'arrive pas. Et grâce à l'évaluation et l'accompagnement qui en découle, on lutte contre la récidive. Mais il y a des facteurs qui ne dépendent pas que de notre intervention et qui relèvent d'autres facteurs sur lesquels il convient évidemment de travailler, et grâce également aux partenaires qui serviront à travailler une véritable réinsertion. En fait, on n'est pas tout seul.
Merci Charlotte Lebesan, c'était vraiment extrêmement intéressant de revenir avec vous sur ces thèmes de la récidive et de la réinsertion. Merci de nous avoir fait part une nouvelle fois de votre expertise. Merci de ces nombreuses précisions et exemples. On espère vous retrouver bientôt dans un podcast de l'ISP, Charlotte Lebesan.
Oui, bien sûr, et merci à vous.
Au revoir à tous.